Savez-vous qui est l'homme le plus heureux du monde? Evelyne a dit, n'est-ce pas toi? Eh bien, non, c'est pas moi. Il y a une photo qui va apparaître. Il s'agit de Mathieu Ricard. C'est un écrivain français. Alors, comment fait-on pour mesurer le bonheur? En fait, il se trouve qu'il existe. Merci beaucoup. Vous avez compris, hein? C'est un moyen scientifique de mesurer le bonheur dans le cerveau. On fait cela en mesurant l'activation relative entre le cortex préfrontal, ici, hein, parrainien RM, gauche et le droit. Et scientifiquement, ça permet de savoir que le bonheur de Mathieu Ricard dépasse de loin le bonheur des autres hommes. Alors la question qui se pose, à quoi pensait-il quand on l'a mesuré? Certains pourraient imaginer, tiens, il doit avoir quelque chose de coquin, tu vois, dans l'esprit. Eh bien non, figurez-vous que quand il a été mesuré, il méditait sur la compassion. Parce que Mathieu Ricard dit que le bonheur, c'est d'être dans un état de compassion. Être dans un état de compassion. Et vous savez, ça me fait penser à quelqu'un. Jésus a dit, heureux ceux qui communiquent aux autres la compassion. Le bonheur est associé à la compassion. Ceux qui donnent de la compassion recevront eux-mêmes, comme le Père le dit, comme Jésus le dit, de la compassion. Et c'est bien ce que fait le bon samaritain. Vous savez, on a lu le bon samaritain au début de notre série. Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » ou « Aime ton prochain comme toi-même », il est interrogé pour savoir qui est mon prochain. Et quand il raconte la parabole du bon samaritain, l'une des caractéristiques de ce qu'il fait, il rencontre quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est meurtri par la vie, et il l'aime comme lui-même, lui le bon samaritain. Et il nous est dit dans cette parabole qu'à un moment donné, il eut compassion de cet homme. Et dans le travail de méditation sur ce thème de la compassion, je suis allé surfer sur Internet et j'ai découvert qu'il y a une dizaine d'années, et ils vont fêter 10 ans demain, donc le 12 novembre, 10 ans, d'un mouvement qui s'appelle la Charte de la Compassion. Karen Armstrong est une écrivaine britannique, et puis elle étudie la science des religions. Et elle a vu que dans les religions, la valeur la plus profonde, et qui peut être un vrai bonheur pour ce monde, c'est la compassion. Elle a étudié pendant des années, elle a lancé une charte, un mouvement, où elle engage les croyants, mais de toute confession, comme les non-croyants, à embarquer dans un mouvement de dire, dans ma communauté, dans ma famille, dans ce que je suis, je vais embrasser la cause de la compassion, qui consiste en quoi? Ce qu'on appelle la règle d'or, qui est connue dans toutes les religions, qui est le fait de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. C'est aussi simple que ça. Et il se trouve que c'est un verset biblique. Et ce verset biblique, il est vraiment puissant parce qu'il résume absolument la loi. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, ça le résume. Si on devait dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que tu aimes ton prochain comme toi-même, mais par le fait de chercher à ce qu'il ait exactement la même chose que toi. Que tu le traites de la même manière que toi. Et en fait, quand on étudie la compassion, si elle était mise en œuvre et que tout le monde le pratiquait à un niveau élevé, ce qui se produirait, c'est qu'il n'y aurait ni la faim, ni les guerres. Ce monde serait transformé par l'amour. Je ne sais pas si vous me suivez là. La règle d'or, ça s'appelle la règle d'or, que Jésus lui-même est en train de nous dire, en plein milieu des béatitudes, en fait, traite l'autre comme tu aimerais être traité. C'est une démarche de décentrage de nous-mêmes, de regarder, considérer l'autre autrement et embrasser la compassion. C'est un vieux mot, mais qui est puissant, qu'en fait, personne n'a voulu changer. On parle d'empathie. L'équivalent dans le monde, quand on enlève la dimension religieuse, c'est l'empathie. Et on va voir ce que c'est ce matin. Parce que Jésus nous encourage, Plus que cela, il dit « Heureux ceux qui procurent la compassion aux autres. Heureux ceux qui ont de la compassion, qui ressentent de la compassion pour les autres, parce que Dieu lui-même, qui est compatissant, aura compassion d'eux. » Alors, nous sommes dans la série de l'école de l'amour, et selon le modèle de Jésus, et on va voir ce matin qu'une des caractéristiques de l'amour, d'après les standards de Jésus, c'est la compassion. Une des manières où lui, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est-à-dire on va regarder son modèle dans la parole tout à l'heure, et on va apprendre de lui à devenir des disciples, c'est-à-dire des ceux qui imitent Jésus, qui font comme Jésus, qui le regardent, qui le contemplent, qui l'adorent, mais qui veulent plus que chanter des chants, être le caractère transformé dont nous parlait Lynn tout à l'heure. Son caractère s'imprime en nous pour que nous fassions preuve de compassion. Et en fait, mon rêve, c'est que si nous le pratiquons au quotidien, et il ne s'agit pas simplement des grandes causes humanitaires, il faut aller au bout du monde, non. Notre prochain, celui qui est proche de nous, pratiquer cela et devenir des champions, des exemples, ceux qui se mobilisent personnellement, en famille, pour dire « nous voulons changer ce monde » par le fait simple. Alors ça a l'air simple en le disant, mais il s'agit de le pratiquer, traiter l'autre comme nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ce qu'est la compassion, on va voir la définition de la compassion, comment Jésus l'a vécu et comment nous le pratiquer. C'est une invitation à se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre. Vous connaissez cette expression ? S'asseoir dans son fauteuil. Et je vais vous dire ce que je suis en train de vous dire, si on se met à le pratiquer dans les relations que nous avons avec les autres, on va s'asseoir dans leur vie, on va s'asseoir dans ce qu'ils ressentent, on va s'asseoir dans leur souffrance, comme celui qui était abîmé dans cette parabole du bon samaritain, s'asseoir dans leur vie et ressentir ce qu'ils ressentent. Et du coup, vous savez, se mettre dans les baskets de quelqu'un, ça demande à enlever ses propres chaussures. Ça s'appelle de l'humilité. Ça s'appelle de l'écoute. Ça s'appelle le fait de « je quitte mes positions, mes raisonnements, mon ressenti, ma protection, mes sécurités, et je vais revêtir tes chaussures. » Je vais me mettre dans tes baskets. Je vais aller dans ton monde. Je vais quitter mon monde dans lequel j'évolue et je vais choisir de marcher dans tes baskets. D'abord de les mettre et puis de voir ce que ça fait. Alors, je vais juste... Ça demande du temps. Ça demande de l'humilité. Ça demande de se décentrer. Ça demande à ce que le moi quitte son trône, quitte sa gouvernance, quitte sa toute-puissance, se décentre, s'assoie dans ce que l'autre vit et mette ses baskets et se mettre à marcher et à s'imaginer ce qui se passe dans sa vie, à le ressentir. Mon objectif, c'est qu'on reconnaisse la compassion, on sache que c'est, selon Jésus, et puis qu'on l'accueille, qu'on la laisse s'exprimer au milieu de nous. On va finir ce culte par un temps, on va attendre un témoignage, et après on va prier les uns pour les autres, mais avant de prier pour l'autre, on va se mettre dans ses baskets. Alors qu'est-ce que la compassion ? Le dictionnaire nous dit que c'est une capacité de percevoir et de comprendre la souffrance de quelqu'un. Et ça peut être une capacité surnaturelle, parce que nous croisons des tas de gens, nous ne les voyons pas, ou en tout cas on ne perçoit pas, on ne voit pas, nos yeux ne s'ouvrent pas sur ce qu'ils vivent. Ça c'est la première des choses. Mais la compassion va plus que la perception. La perception c'est déjà une étape extraordinaire. J'avais à table Marina et puis Yann dans la semaine parce qu'ils faisaient des travaux dans la fameuse maison de Moïse et Ginette bientôt là. Je les avais à table, puis elle m'a raconté deux témoignages et à un moment donné elle a été saisie de compassion en priant pour quelqu'un. Elle est en prière et puis elle se met à pleurer sans comprendre ce qui se passe. Ça c'est une expérience de compassion parce que ça veut dire je prie pour quelqu'un et je perçois quelque chose, je le vois, et en plus, je me mets à ressentir ce que l'autre ressent. C'est une chose de voir, on peut voir, et enjamber, comme dans la parabole du bon samaritain. C'est-à-dire, je ne vois pas vraiment, je ne me laisse pas toucher. Et l'expérience, c'est que quand je vois, je me laisse toucher et j'accueille cette souffrance. La Bible nous dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». Ça veut dire quoi ? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire, quelqu'un est en train de pleurer, tu vois sa souffrance, tu vois ses pleurs, et tu te mets à rentrer dans sa vie, dans ses baskets, tu t'assois dans ce qu'il est en train de vivre, tu mets ses baskets et tu pleures avec. En fait, c'est une vraie expérience, c'est un vrai parcours, c'est un cheminement. Je descends de mon indifférence, de mes préoccupations, des tas de choses. Je décide de le faire. C'est un choix. L'amour est un choix. Et en fait, la compassion, c'est puissant. Ce n'est pas juste un sentiment pour les faibles qui sont touchés, un peu de pitié. Non, c'est puissant. C'est une énergie du ciel qui fait que je vois, et plus que voir, je vais. C'est-à-dire, je n'ai pas peur d'aller dans la souffrance de l'autre. Et je pleure avec. Je pleure avec. Deux étapes. Compassion. Et du coup, connectant avec les gens, en voyant leur vie, en les traitant comme on aimerait, parce que, vous savez, cette vie, elle fait souffrir. C'est comme ça. Et nous devons tous, même la Bible dit, nous armer de la pensée de souffrir. Dans la perspective que quand la souffrance vient, nous sachions la traiter, en être guéris, pour nous-mêmes, en ayant vécu la consolation, la grâce de Dieu, on aille rejoindre et consoler et relever les autres. Il ne s'agit pas de pleurer en s'abandonnant à une sorte de désespérance pour aller dire ben, « allons nous suicider, comme, vous savez, comme on est tellement dans la tristesse. » Non, 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 c'est aller le rejoindre pour aller le prendre et le remonter de là. Vous savez, la compassion correspond exactement au mot « miséricorde ». Miséricorde, c'est égal compassion. Pareil, c'est un vieux mot. Et pour vous aider à vous en souvenir, c'est envoyer une corde à la misère. Miséricorde. Tu envoies une corde, c'est-à-dire tu rejoins la personne, tu sais ce qu'elle est en train de vivre et tu vas la rejoindre dans sa misère. C'est exactement ça. Du coup, tu l'attrapes et tu veux la sortir de là. Il ne s'agit pas de communier pour rester là. Vous allez le voir, ça va aller plus loin. Première étape, percevoir. Deuxième étape, ressentir. Et passer du temps, pas passer vite. Pas la consolation rapide. T'asseoir, enlever tes propres chaussures. Prends du temps. Cherche pas la solution rapide, comme quelqu'un qui veut être un sauveur et être dans le complexe du sauveur pour sauver la personne rapidement. Très souvent, quand on n'est pas prêt à descendre pour aller communier avec une vision, et on va le voir à la troisième étape, biblique. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Mais, donc, je veux dire, c'est un terme qui est connu. Empathie, etc. Mais en allant plus loin, dans la Bible, vous savez, la pensée biblique de la compassion, c'est une notion d'entrailles. Dans Jérémie 31:20, on trouve « Mes entrailles, c'est Dieu qui parle, sont émues en sa faveur, en parlant du peuple d'Israël, jusqu'à la compassion. J'aurai compassion de lui, dit l'Éternel, en parlant du peuple d'Israël. » C'est le cœur de Dieu. La compassion, c'est le cœur de Dieu. Mais ça parle des entrailles. C'est comme un père a compassion de ses enfants, nous dit le psaume 103, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est-à-dire Dieu a la compassion, a des entrailles pour ses enfants. Comme quand vous avez eu, je ne sais pas si vous avez déjà eu un enfant qui est gravement malade, vous ne savez pas ce qui se passe, et vous voudriez pouvoir donner vos vies pour que l'enfant soit guéri. C'est-à-dire une maman qui craint que son enfant s'en aille et dit « Non, 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 faites tout absolument, je veux une maman. » En fait, c'est les entrailles profondément qui sont émues, bouleversées. Pourquoi ? Parce qu'on ressent la souffrance de l'enfant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas médicalement le sauver, mais on se dit « Mais si je pouvais donner ma vie pour que l'enfant puisse sortir de là. » Ça, c'est ce que Dieu ressent envers chacun de vous. Comme un père a compassion. Quand son enfant souffre, son père a compassion. Il perçoit cela, il le ressent comme l'enfant, et plus que cela, et on va le voir dans la parole, il va plus loin. Regardez Exode 3, 7, 8. Voyez comment Dieu a compassion. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu a vu. Il a vu la souffrance d'Israël et il a entendu les cris. Il dit, j'ai entendu, moi dans le ciel, j'ai entendu, mes entrailles sont bouleversées. Je les aime comme un père et je vois mes enfants souffrir. J'en peux plus. Mes entrailles sont bouleversées. Et qu'est-ce qu'il fait? La suite. Car je connais ses douleurs. Alors, c'est vraiment puissant. Hein. Donc, cette étape, cette deuxième étape où il rejoint la douleur de ses enfants, il dit, je connais, j'expérimente, je ressens, je sais ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas le Dieu saint qui est loin, qui ne ressent rien. Non, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, mes entrailles connaissent qu'ils sont en train de souffrir. C'est-à-dire que lui, il vibre, l'enfant crie, ah, il crie, lui, ah, dans ses entrailles, il sait, il vit exactement la même chose que le peuple d'Israël est en train de vivre. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Ce qui fait bouger le cœur de Dieu, c'est de voir la souffrance, de percevoir, de l'entendre, de la connaître, donc de vivre un moment de compassion et de dire, c'est pas possible, je peux pas rester dans mon ciel de gloire, je vais descendre. Ils sont en train de crier pour dire, au secours, ça fait 400 ans, au secours, ils crient. Quand un malheureux crie, l'Éternel, il entend et il est bouleversé dans ses entrailles. Ce qui le fait bouger, c'est sa compassion. Et du coup, il reste pas en train de pleurer, il décide qu'il faut que quelque chose se passe. Il décide. Et c'est sa compassion qui dit, il faut que quelque chose se passe. Ce n'est pas possible que je continue à entendre ça sans que quelque chose se passe. 400 ans. Et puis, il va trouver un homme. Quand Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un qui souffre, il trouve un homme. Alléluia. Il a trouvé Moïse et il dit, j'ai entendu. Il est en train de parler à Moïse. J'ai vu, j'ai entendu, je connais ses douleurs. En fait, Jésus a vécu exactement la même chose. Quand il est mort à la croix, il était en train de dire, j'ai vu la souffrance que tu vis. J'ai entendu les cris que tu pousses. Je connais ces douleurs. Et j'ai décidé de descendre et de délivrer. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il vous plaît? Dieu bouge ses entrailles. Quand il agit, il trouve un homme. Il a trouvé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et on a un parallèle. Dieu a trouvé Jésus. Jésus qui a dit, me voici, je vais y aller. Et je vais être finalement habitué à la souffrance. Je vais voir cette souffrance. Je vais entendre cette souffrance. Je vais la rejoindre. Je vais la connaître. Je vais même complètement le porter sur moi. Pourquoi? Parce que je veux les délivrer. Je veux les délivrer du péché, je veux les délivrer de la mort. De tout ce qui cause du péché, tout ce qui cause la souffrance de l'homme, je l'ai vu, je l'ai entendu, je suis descendu pour délivrer. Et dans l'Ancien Testament, on a un prototype, une sorte de type de Christ, du Saint-Esprit, quelqu'un qui représente le Saint-Esprit dans un personnage humain. C'est comme ça qu'on lit souvent la parole. Hein. Dieu se cache derrière des expériences d'humains. Il dit, là c'est mon cœur. En fait, il s'agit de Néhémie. Néhémie, il a vécu exactement la même chose, ce que je suis en train de vous dire. Et on va voir 5 étapes bibliques dans Jésus aussi, mais Néhémie est un exemple. En fait, Néhémie est chanson. C'est comme un sommelier d'aujourd'hui auprès d'un roi. Il est à l'étranger, il est à Babylone, il est dans une situation confortable, il est dans son monde. C'est confortable et puis il est heureux. Puis à un moment donné, il y a un de ses frères qui revient d'un endroit où il y a de la souffrance, d'un endroit où il y a des cris, il y a du malheur, et il pose la question, comment vont nos frères qui sont là-bas à Jérusalem? Lui, il est à Babylone, et il demande des nouvelles alors qu'il est dans son monde, et il choisit d'entendre. Et son frère lui dit, oh là 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 là, c'est une catastrophe. Ceux qui vivent là-bas, c'est une catastrophe. Les murailles sont renversées, les portes sont consumées par le feu. Ils sont dans un malheureux état. Et quand il entend cela, quand il voit cela, son cœur se met à souffrir. Ses entrailles sont touchées. Et il se met à pleurer. Vous savez, c'est un moment très très fort. Première étape, il voit, il entend, en tout cas il entend des nouvelles. Et en entendant la nouvelle, il se représente ce que c'est, il le voit. En le voyant, il ressent ce qu'il ressent. Et il se met à pleurer. Voici ce qu'il dit. Ceux qui sont restés de la captivité, voici ce que son frère lui dit. Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Il décrit une situation de souffrance, de honte, c'est terrible. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Vous savez, tous, on entend des nouvelles. Tous, nous sommes confrontés à des souffrances. Nous sommes tout autour de nous, des gens souffrent. Et ce n'est pas que, physique, ce n'est pas que matériel. Il y a des gens qui souffrent dedans. Je vous le dis. Des gens souffrent. Et le niveau de souffrance, des fois, c'est insupportable. Pour ces personnes-là, au point de se suicider. La souffrance est là autour de nous. Maintenant, là, Néhémie entend ça et il accueille. Il se met à pleurer, il jeûne, il est dans la désolation. Mais lui, il n'a aucune raison d'être dans cet état. Aucune. C'est un choix d'ouvrir. C'est un choix d'accueillir et de se mettre à pleurer avec. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Plus que prier, il intercède. Et là, ça rejoint ce que nous disait Fabienne dimanche dernier. J'aime, donc je prie. Il aime ceux qui sont là-bas en captivité et il se met à prier. Et pas une petite prière, « Oh Seigneur, fais quelque chose. Bénis le monde et ses environs. » Vous savez, c'est comme quand on prie, on rend grâce, « Seigneur, bénis pour ceux qui n'en ont pas. » Vous savez ce genre de prière ? Peu de poids, on ne les connaît pas, ceux qui n'en ont pas. Par contre, on peut connaître des gens qui n'en ont pas. Se mettre à prier pour eux et à même jeûner pour sentir ce que ça fait que d'avoir faim. Et prier. Prier. Alors, on va lire comment il prie. Il dit, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. En fait, il ne s'économise pas. Jour et nuit, il se met à prier. Donc la compassion qui le touche s'arrête pas juste à être impuissant devant la douleur. Il dit, on va se tourner vers Dieu jusqu'à ce que nous puissions voir la situation changer. Et il dit, Seigneur, entends, je t'en supplie, entends. Une heure, deux heures, trois heures, jour et nuit. Est-ce que ça a duré une semaine, trois semaines? On ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais sa compassion va jusqu'à dire, je vais me bouger, il faut qu'il y ait une délivrance. Alors qu'est-ce qui se passe? La troisième étape, ou plutôt la quatrième après la prière, il se met, alors écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il se met à voir une solution. Il faut que la situation que sont en train de vivre, mais ceux qui souffrent, changent. Il est en prière, il est en pleurs, il dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je ne peux pas juste pleurer avec eux, mais je vais descendre. Je vais faire quelque chose, je vais quitter là où je suis. Je vais descendre de mon monde et je vais y aller. Et au moment où j'y vais avec la foi que quelque chose va se passer. Il faut que quelque chose se passe. Et du coup, dans la prière où il est dans la désespérance, il est au fond du trou, à un moment donné, il perçoit une porte et il dit, c'est possible que quelque chose se passe pour cette situation. Il le voit. Et pour moi, c'est un levier qui est puissant. Avant de rentrer, ou au moment où on rentre, il faut avoir la foi que la personne envers qui on tend une corde vers sa misère, on croit que c'est possible que les choses changent. Vous avez loupé une occasion de dire amen. Oui, Néhémie le croit. Et du coup, il y met sa vie. Il est prêt à mettre sa vie. Il se présente devant le roi, il dit, ok, roi, il n'avait pas le droit de venir triste devant le roi, il dit, oui, je suis triste, je suis trop triste. C'est-à-dire, je suis comme sous de la douleur, de la souffrance de mes pères, de ceux qui sont là-bas à Jérusalem, et j'ose venir devant toi pour te demander que quelque chose change. En fait, je crois que c'est la mission des croyants. La mission des croyants qui vont dire, nous ne supportons pas la souffrance, la douleur que nous voyons. Nous l'accueillons, nous la partageons et on se tient devant Dieu jusqu'à ce que quelque chose passe où Dieu va dire, ouais, ok, si tu es prêt à donner ta vie, je vais te donner de la ressource pour pouvoir aider les gens. Et qu'est-ce qui se passe pour Néhémie ? Dieu lui pourvoit tout ce qu'il faut. Et il va là-bas, dernière étape, il va les rejoindre. En 52 jours, il relève les murailles. L'opprobre est enlevé. Enfin, c'est une histoire magnifique. Néhémie 1, 2, lisez cela. C'est magnifique. Mais quand il arrive et qu'il veut les aider, il ne vient pas dans un complexe de sauveur, moi j'ai, non. Il partage la vision et les gens se mettent à dire, levons-nous et bâtissons. Ils se mobilisent, ils les valorisent, ils mobilisent les ressources en eux pour pouvoir être une solution, eux-mêmes. Vous savez, très souvent, les gens qu'on doit aider doivent eux-mêmes apprendre à se mobiliser. On dit, vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que de leur donner des poissons. Bien sûr que s'ils sont affamés, il faut qu'ils mangent, on va donner du poisson. Mais il faut apprendre à pêcher, il faut les remobiliser, il faut qu'ils puissent dire, levons-nous, Levant la tête, nous sommes dans l'opprobre, c'est le malheur, mais c'est possible par des gens de foi comme vous et moi. La compassion, c'est ce mécanisme. Et on va le voir en Jésus maintenant. Jésus fait exactement la même chose. Et juste avant de parler de Jésus, on va regarder ce que produit d'avoir une vision de foi dans des situations de douleur. Tu peux me passer la vidéo, s'il te plaît? On va éteindre la lumière.
Más conocido como baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el gnocchi. Y suena así.
Una comunidad como Cátedra no es un lugar para tener un violín. De hecho, el violín, un violín cuesta más que su casa.
C'est ici même qu'on a trouvé de quoi faire des violons. C'est à partir de là qu'on a commencé à fabriquer. S'il n'y a pas de musique, ma vie serait inutile et sans saveur. Quand j'entends le son du violon, je sens comme des papillons dans mon estomac. C'est une sensation que je ne connais pas, je ne sais pas expliquer. L'orchestre des instruments recyclés est un orchestre qui joue avec des instruments fabriqués avec des déchets. Alors, en fait, c'est dans un des pays, je crois que c'est le Mexique, hein, un des pays d'Amérique du Sud, des gens vivent dans des déchets. Ils vivent dans des déchets. Il y a quelqu'un qui est venu allumer une lumière, de dire, on va, dans ces déchets-là, fabriquer des instruments de musique. La capacité de voir, dans des situations de douleur extrême, avoir la foi que c'est possible que les gens se relèvent. Quelqu'un qui est capable de dire, j'ai transformé mon déchet en instrument de musique, est en capacité de jouer de la musique et de reprendre vie. Quand on entend cet enfant dire, mais quand je joue, c'est comme des papillons dans mon ventre. Ça veut dire que des gens ont vu en eux des qualités, des gens ont vu en eux une dignité, ont vu une beauté, ont vu des capacités. Et ont eu la foi de conduire à ce qu'on ait créé des instruments, qu'on les forme pour qu'ils fassent un orchestre symphonique. Je crois que le peuple qui peut être capable d'avoir une telle foi, c'est un peuple qui accueille la compassion de Dieu. Des croyants qui se mettent à croire que c'est possible que ce monde soit changé si on accueille la compassion qui nous donne de bouger. Il faut faire quelque chose. Je descendrai, j'irai les délivrer. Néhémie s'est levé. Et Jésus a fait exactement la même chose. La Bible nous dit qu'il était habitué à la souffrance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il a porté à la croix les souffrances que nous méritions. Ça c'est Jésus, le Jésus dont je vous parle. Il a vu nos souffrances, il a dit oui à Dieu et il est arrivé. Et la compassion, à chaque fois, et on va le lire, c'est une marque de fabrique de Jésus. Avant d'intervenir, la Bible nous dit, ému de compassion pour une foule languissante, Matthieu 9, 36. Ému de compassion pour une grande foule avec des malades. Ému de compassion pour une foule ayant avec elle beaucoup de malades. Ému de compassion pour un lépreux qu'il va purifier. Marc 6, 34. Ému de compassion pour une foule qui était comme des brebis sans berger. Marc 8, 2. Ému de compassion pour une foule qui n'a rien à manger et qui va miraculeusement rassasier. Avant d'intervenir, on dirait que le passage par l'étape de « mes entrailles sont bouleversées, je vois une situation, il voit la foule, il est bouleversé ». Il accueille ce qu'ils sont en train de vivre, ils n'ont pas mangé et cette souffrance le touche. Ce n'est pas simplement « je suis un maître, je viens agir, il n'y a rien qui se passe ». Ses entrailles sont bouleversées. Au moment où ses entrailles sont bouleversées, il décide d'intervenir et un miracle se produit. Il décide, il dit, je ne peux pas laisser la situation ainsi. Et en fait, à chaque fois qu'il intervient, ça fait partie des personnes que Dieu a décidé qu'il fallait que ce soit sa mission. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui souffrent, je suis venu pour ceux qui sont rejetés, je suis venu pour ceux qui sont en prison. À chaque fois qu'il les voyait, ce pourquoi Dieu l'a appelé, à chaque fois qu'il les voyait, il était ému de compassion. Il était bouleversé dans ses entrailles, ému de compassion. Et il dit, il faut que ça se passe. Donc, premièrement, il voit. Deuxièmement, il rentre dans la souffrance de l'autre et il se met même à pleurer. Le verset le plus court de la Bible nous dit, Jésus pleura. Dans un moment de compassion. C'est pour Lazare. Il va le ressusciter, mais il accueille la douleur que c'est que de perdre un membre cher. Trois, pour moi, Jésus était en prière tout le temps. Il va chercher les ressources du ciel et voir la situation transformée. Il dit, c'est possible que ça change. Évidemment, quand il s'approche, notre Seigneur a toujours une solution pour délivrer. Alors la scène qui me bouleverse le plus, c'est souvent ça. Hein? On quitte un monde et on rencontre un autre monde. Jésus vient de faire plein de miracles. Il y a une foule nombreuse. Là, on est dans Luc 7, ému de compassion pour une veuve. Luc 7. C'est la fête, Jésus vient de guérir, de délivrer, il y a un réveil qui peut se passer, c'est la vie. Et il croise une autre foule, un autre monde, une maman qui est une veuve, donc elle n'a plus de mari, et elle a un fils unique qui vient de mourir. Toute la ville de Naïm, ou quasiment, est autour pour la consoler. Et Jésus, avec une foule remplie de joie, vient rencontrer une foule remplie de tristesse. Une foule remplie de vie vient rencontrer une foule là où il y a la mort. Jésus, quand il voit cela, il est ému de compassion. Et il dit, il faut que quelque chose se passe. Il arrête le cortège, il touche le mort, il l'appelle à la vie et il le redonne à sa maman. Alléluia. Alors maintenant, comment grandir dans la compassion? Comment être disciple de Jésus? Comment ressembler à Jésus? Comment accueillir cette compassion? Je voudrais dire qu'on pourrait croire que c'est réservé à des Jésus, Néhémie, Moïse, et puis les grands noms, on peut dire Nelson Mandela, Mère Teresa, l'abbé Pierre, sœur Emmanuel. Il y a des hommes et des femmes de compassion. Mais ce dont je parle, ce n'est pas réservé à des élites de compassion. C'est possible pour chacun de nous. Le premier pas, c'est de traiter l'autre de la même manière que tu voulais le traiter. Mais de le mettre en travail, en bleu de travail, de le mettre dans tes baskets. Rentrer dedans. Et du coup, il s'agit d'identifier les ennemis à ta compassion. Tu as des ennemis à la compassion. Je vais vous poser les questions. Quels sont nos ennemis à la compassion? Tes ennemis. Qui fait que tes entrailles se ferment quand tu vois la souffrance? C'est quoi nos ennemis? Je vous pose la question, je voudrais entendre les réponses. La peur. Pour accueillir la compassion, en fait, il s'agit d'ouvrir ses entrailles. C'est aussi simple que ça. Hein? Si tu fermes tes entrailles, même la Bible dit, hein, tu vois ton frère dans la souffrance, si tu fermes tes entrailles, eh bien, tu es pire qu'un non-croyant. Tu vois la souffrance, tu ouvres tes... Donc tu maintiens, tu n'as pas peur d'ouvrir tes entrailles et de dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Alors oui, il y a des risques. On parle de la fatigue de la compassion, d'accord? Il va falloir le gérer, il faut être capable d'être fort. En fait, la compassion, c'est pour les forts, c'est pas pour les faibles. C'est quelqu'un qui dit, je n'ai pas peur. D'autres ennemis de la compassion? L'égoïsme, le confort. Je vous garantis, Néhémie, il aurait pu dire « Moi, je reste assis, je suis bien ici. » Il aurait pu le dire. Mais c'est un choix de quitter son confort. C'est un choix de quitter l'égoïsme. L'égoïsme est un frein à accueillir la compassion. Tu vois, mais tu n'ouvres pas tes entrailles. Autre chose? Aucune empathie. C'est-à-dire, c'est la dureté. Un cœur qui est devenu dur. Tu vois, mais ton cœur ne souffre, il n'est pas ému. En fait, la Bible nous dit de Jésus, il était habitué à la souffrance. Ça veut dire que la souffrance des autres le pénétrait, l'absorbait. Il ouvrait ses entrailles, il vivait de manière ouverte. Les situations venaient le toucher. Un corps rempli de compassion, c'est un cœur qui peut pleurer, peut communier à l'autre. Je m'ouvre. Et quand ça fait longtemps que tu n'as pas senti ton cœur vibrer, tes entrailles comme un père envers un enfant qui souffre, il y a quelque chose qui a besoin d'être touché. D'autres ennemis à la... Oui ? L'aveuglement. Très juste. En fait, on peut même se persuader soi-même par de faux raisonnements. Vous savez, ce temps de raisonnement, « Ah, mais si j'aide, si je m'ouvre, on va me voler, on va abuser de moi. » Je ne sais pas si vous voyez le... Oui, mais il y a ceci. Ces choses existent, hein, attention. Mais nous avons des raisonnements pour fermer nos entrailles. Nous avons des protections pour fermer nos entrailles. Et on les ferme intentionnellement. Et au bout d'un moment, on ne voit plus rien. Comme dans la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire j'enjambe. Ils avaient des raisonnements pour enjamber. Ils avaient de bonnes raisons. Ce n'est pas possible de savoir que ce que je fais n'est pas bien. Il faut bien que je me persuade que c'est bien ce que je fais. Vous me suivez là ? Identifions-les pour ouvrir nos cœurs. Quoi d'autre ? Ah. Ici, Eliam nous dit le sentimentalisme. En fait, moi je crois que l'autre terme qui pourrait être, c'est la pitié. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas avoir pitié à des gens et on ne veut pas non plus que quelqu'un qui est dans la souffrance ne veut pas de ta pitié. Je ne sais pas si vous me suivez là. Franchement, jeter une pièce à quelqu'un, c'est de la pitié. C'est pour assouvir, pour couvrir notre conscience. On donne une pièce, on a pitié. Et franchement, c'est humiliant. La compassion élève les gens. La pitié les abaisse. Parce que c'est méprisant. Je ne sais pas si vous me suivez là. Le sentimentalisme, vous dire oh, je t'ai touché. Les larmes de crocodile, quoi. Je donne, puis je m'en vais. Puis... Non, non. En fait, il s'agit de regarder, d'ouvrir, d'accueillir, de descendre, de se mettre à pleurer. Et quand tu te mets à côté de quelqu'un que tu pleures avec et qu'il sent que tu es touché profondément, et ce n'est pas sentimental, il y a quelque chose qui se passe. Job dit ça, hein. Un homme a besoin de la compassion de ses amis, même s'il a abandonné la crainte de l'Éternel. Job, il dit, je souffre tellement. Job, c'est le modèle de souffrance summum. Et il dit, dans ces moments-là, on a besoin de quelqu'un qui est capable de faire preuve de compassion. De comprendre. Tu souffres. On ne va pas chercher les raisons pourquoi tu souffres. Je vais souffrir avec toi. Il y en a d'autres ? Ah, très juste. Manque de temps. Je n'ai pas le temps. Si je m'arrête, je vais être en retard. Et il faut respecter les gens envers qui j'ai pris un engagement, n'est-ce pas ? C'est une valeur importante. Les raisonnements que nous avons pour ne pas ouvrir nos entrailles. On manque de temps. On est dans une génération qui ne prend pas le temps. Et dans la parabole du fils du bon samaritain, il a pris le temps. Et le temps, c'est de l'amour. Oui ? À qui ? La soumission à son prochain serait un ennemi à la compassion ? La peur de se soumettre à quelqu'un qui est dans une... Oui, c'est comme pour sauver quelqu'un. S'il se débat de trop, tu peux te noyer avec. On dit ça, hein. Il faut attendre qu'il soit... Il faut intervenir au bon moment. Pour ne pas être soumis à sa douleur et qu'elle te domine. Je l'entends. Et je peux vous dire, il y a des garde-fous. Et je ne vais pas parler de ces garde-fous ici, parce que ce n'est pas l'objet de ma prédication. Bien sûr qu'il faut être vigilant à l'abus des gens qui sont dans l'abus, qui abusent d'un système, qui abusent de ta compassion. Mais quand on est dans la compassion, on touche les entrailles de la personne. C'est une communion d'entrailles. C'est pas, est en train de m'aider. Bien sûr qu'il pourrait abuser de ton matériel, mais est-ce important de perdre un peu de matériel ? Mais si tu le rejoins dans son cœur, si tu prends du temps pour le rejoindre dans ce qu'elle ressent, peut-être même que tu ne donneras pas. Peut-être que même donner, c'est un piège. Il ne faut pas donner à cette personne du matériel. Mais par contre, tu peux donner ton temps et tu peux l'aimer et passer du temps avec elle et la rejoindre et pleurer avec elle pour que la personne se sente comprise. Vous savez, un besoin fondamental de l'humanité, c'est d'être reconnu et compris dans ce qu'on ressent. Si je passe du temps avec toi, que tu m'expliques une situation douloureuse, le plus important pour la personne, c'est qu'elle sente que tu ressens la douleur qu'elle ressent. Tu perçois cela. Et évidemment, cette veuve a perçu ce que Jésus a ressenti. Il a été ému de compassion. La Bible le signale à chaque fois, ému de compassion avant d'agir dans l'action. C'est perceptible, c'est celui qui écrit, l'évangéliste voit qu'il est ému, la foule voit qu'il est ému, cette dame voit, il est touché. Et c'est pas du cinéma, il est sincère parce qu'il y a une ouverture. Donc, première chose pour être disciple de Jésus, c'est d'identifier les ennemis de la compassion. Moi j'ai noté ici, en fait vous avez quasiment répondu à tout, mais l'apitoiement de soi. On est concentré sur ce qui nous manque à nous. On est concentré sur nos souffrances. Alors que Dieu veut racheter nos souffrances pour nous conduire vers les autres. Il veut nous guérir pour nous conduire vers les autres. Avec cette guérison. Je vais vous raconter comment que j'ai vécu ça. Il n'y a pas longtemps, on était pour le décès de mon père. Toute ma famille, mon père a eu 6 enfants avec ma mère et d'autres enfants avec d'autres mères. Et il y en a 2 qu'il a reconnus, parce que d'autres, il ne les a pas reconnus. 2, il a reconnu, il nous a dit, avant de mourir, ces 2-là participeront à l'héritage. Et du coup, ça fait 1 an et demi qu'il nous a dit ça, il décède, et quand on se retrouve, il y en a une qui s'appelle Léa, que plusieurs ne connaissaient pas de la famille. Nous venons tous au Bénin pour les obsèques et on arrive les 6 avant avec le 7e qu'on connaît depuis longtemps qui était comme intégré dans la famille. Donc lui, on n'avait pas besoin de l'accueillir. Mais elle, plus de la moitié ne l'avait pas rencontré. Donc quand on arrive avant, on avait tellement envie d'en découdre et puis de régler les problèmes d'héritage. On a commencé à travailler et à parler, à se mettre d'accord. Et quand elle est arrivée, personne ne s'est mis dans ses baskets. Quand on se quitte, je me retrouve seul en train de manger avec elle. Je lui dis « Alors, comment tu as vécu ça ?» Puis j'essaie d'observer et d'aller recueillir ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a vécu. Et là, elle me donne une occasion simplement de témoigner que je m'attendais à ce que, comme ça fait 42 ans que vous connaissez, moi j'ai 42 ans, vous ne savez pas que ça fait 42 ans que je voulais vous connaître. J'attendais à ce que vous marquiez un temps particulier pour écouter comment que j'ai vécu ces 42 ans au loin dans le silence, être un enfant illégitime, en tout cas, oui, illégitime, qui rencontre après le départ d'un papa les autres frères qui ne marquent pas le temps de l'accueillir pour partager ce qu'elle ressent. C'était un moment d'humiliation. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu la souffrance. Et après avoir vu, on n'a pas pris le temps de partager cela pour trouver... En fait, c'est souvent très simple la manière de traiter l'autre comme on aimerait être traité. Prendre du recul, se poser des questions et rejoindre. Il y avait une souffrance, il y avait une douleur. Et on a décidé de fêter Noël ensemble pour rattraper ça. Oh là 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 là! Alors on s'est justifié, oui, mais c'est parce que... Si justement on n'a pas marqué ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. Il aurait mieux valu qu'on se taise. Parce que pour dire, mais c'est parce que non, nous, toi, bon, ben oui, c'est vrai que tu ne l'as pas choisi, mais bon, nous, on n'a pas de problème avec toi, hein, machin. En fait, j'ai essayé de me rattraper aux branches. La vérité, c'est qu'un corps compatissant va écouter, va poser des questions, et au moment où c'est dit, j'ai passé du temps à aller la rejoindre et dire « Oh, pardon, on va trouver le moyen de réparer cela. » Et vous savez, voici des choses très concrètes, des premiers pas vers le fait que la compassion devienne une arme puissante pour détruire les œuvres des ténèbres. Ça, c'est identifier les ennemis. 2, c'est décider de partager le ressenti. Décider de le partager. C'est-à-dire, je vois la souffrance, mais en deuxième, c'est je me mets dans tes baskets et je fais un choix d'imagination. Comme un acteur. Vous savez, un acteur qui doit jouer quelqu'un qui souffre. Il doit s'imaginer, se représenter la scène la plus douloureuse de sa vie pour se mettre à pleurer et puis ressentir ce que le personnage qu'il est en train de représenter ressent. C'est un choix. La Bible nous dit, hein, Dieu parle au peuple d'Israël, il dit, souvenez-vous, vous avez été esclaves, d'accord ? Les esclaves au milieu de vous, il faut que vous les traitiez en vous souvenant que vous avez été esclaves. C'est-à-dire, c'est un travail de mémoire. Je me souviens, je me représente et je travaille. Je rentre dans ce que la personne est en train de vivre. D'accord, la personne elle souffre physiquement, mais qu'est-ce que ça fait de souffrir physiquement ? Elle est en train de traverser un deuil, qu'est-ce que ça ressent ? Moi, j'ai vécu le deuil. Elle est en train de vivre une séparation. Comment que ça se passe ? Même si je ne l'ai pas vécu, je me représente cela pour pouvoir... Et vous savez, quand on n'a pas vécu, c'est compliqué. Mais on peut faire un choix. Comme un acteur. Comment ressent quelqu'un qui vient de quitter ? Et je me mets à accueillir cela. Je peux même me mettre à pleurer. Je pleure avec ceux qui pleurent. Quand je prie aujourd'hui pour des personnes proches, je me représente. Il y a un travail de mémoire pour pouvoir ressentir. Et quand je prie, du coup, mes entrailles prient et Dieu entend. Trois, prier pour recevoir le fardeau de Dieu. Romains 8 nous dit, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse quand nous prions, parce que nous ne savons pas combien il convient de demander à Dieu. Mais il vient au secours et il se met à travailler en nous. La Bible nous dit par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, on n'arrive pas à le dire avec des mots, mais il y a un ressenti. Et Dieu dit, Dieu qui connaît la pensée de l'esprit et le cœur, il l'exauce parce que ce sont les entrailles qui se sont mis à prier. Un peuple qui veut être un peuple qui change le monde. Mais notre monde, notre petit monde, il ne s'agit pas du monde entier, notre petit monde. C'est d'accueillir le Saint-Esprit qui, lui, est le consolateur, sait prier, est un intercesseur dans nos entrailles. Et quand on sent le Saint-Esprit qui se met à prier en nous, parce qu'on va parler en langue, ou qu'on va même soupirer simplement, la Bible dit, le Père voit, le Père entend, quand nos entrailles sont concernées quand on prie. C'est ce que Néhémie a vécu, c'est ce que Jésus a vécu. Quand il a intercédé, il a vécu cela. Ça, c'est la troisième chose. La première, je dis bien, identifier les ennemis à la compassion. Deux, choisir, décider d'entrer dans ce que l'autre est en train de vivre. Je peux vous dire, c'est un exercice, ben, il faut le pratiquer. Nous sommes à l'école de l'amour, ça se pratique. Et puis, demander la prière. Si quelqu'un manque de compassion, qu'il la demande à Dieu. Quatre, fréquenter des pratiquants de la compassion. Fréquenter des gens, oui, qui sont certainement un peu plus expérimentés. Moi, je pense à Anne, qu'on va interroger tout à l'heure. Voilà quelqu'un qui est une pratiquante de la compassion. C'est-à-dire, elle a vu la souffrance, elle a ouvert ses entrailles, elle a prié, et s'est mise en mouvement en croyant que quelque chose peut se passer pour ces personnes. Fréquentez-les. Moi, je crois que Monique, responsable de l'EPSO, est une pratiquante de la compassion. L'équipe qui travaille à l'EPSO sont des pratiquants de la compassion. Parce qu'ils fréquentent régulièrement des gens dans la souffrance. Mais il y a ce mécanisme. J'ouvre mes entrailles, je rejoins la personne, j'ai foi que quelque chose peut se passer et on voit des gens être restaurés. C'est des personnes que nous connaissons, que nous pouvons pratiquer. Il y a des travailleurs sociaux au milieu de nous qui sont des pratiquants de la compassion. La compassion est une puissance de Dieu. Et en ouvrant nos entrailles, en ouvrant cela au Saint-Esprit, ça fait une vraie différence. Je finis par le fait de décider de voir la beauté ou le visage de Jésus dans les personnes. Dans Matthieu 25, Jésus parle, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous êtes venu me visiter en prison, En fait, toutes les personnes dont Jésus parle sont des gens qui sont dans la souffrance. En prison, malades, vous êtes venu me voir. En fait, vous êtes descendu de votre monde, Vous avez ouvert vos entrailles, vous avez été avec moi. Et il s'agit d'aller visiter un malade dans un hôpital ou en prison, un prisonnier. J'étais prisonnier, vous êtes venu me voir. On ne sort pas de la prison, on n'a pas autorité pour sortir de la prison. On est simplement en train de partager quelque chose avec eux. Tu es en prison ? Et choisir de le faire. Choisir d'y aller. Se mettre à pratiquer.